BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission RH, c'est Happy Boulot, merci d'être avec nous, on est ensemble pendant une demi-heure. Au programme, connaissez-vous le congé paternité, PATE. Et oui, un congé offert par l'entreprise pour vous permettre de bien accueillir votre nouvel animal de compagnie. C'est l'idée originale de Santévet, assureur pour animaux de compagnie, sa DRH va venir nous en parler. Dans 10 minutes, c'est la séquence service de notre émission, vous en avez l'habitude, vous nous posez vos questions, on y répond avec notre avocat en droit du travail. Aujourd'hui, une stagiaire de 22 ans en stage depuis 2 ans nous demande comment sortir de cette situation. C'est l'avocate Valérie Memounayat qui lui répondra. Puis ce sera la carte blanche de Yannick Mercieris qui nous dira tout sur la nouvelle fiche de paix qui va arriver bientôt. Et puis en fin d'émission, on vous présente un nouvel exosquelette pour prévenir les lombalgies. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Dans cette émission, on a déjà pas mal parlé du congé paternité. Eh bien, aujourd'hui, on vous parle du congé paternité, PATE. C'est une première. Bonjour Géraldine Légal.
Bonjour Erwan.
Merci d'être notre invité. Vous êtes la DRH de Santévet, leader de l'assurance santé animale en France. 450 employés, 700 000 assurés. On parle donc des animaux, hein, depuis la création de l'entreprise. 72% de vos salariés chez Santévet possèdent au moins un animal de compagnie, et c'est ce qui vous pousse dans votre politique RH à prendre en compte nos compagnons à quatre pattes.
Oui, alors effectivement, tout ce qui tourne autour des animaux de compagnie chez Santévet, c'est dans l'ADN. Donc 72%, c'est une surreprésentation par rapport à ce qu'on a.
C'est limite, il faut en avoir un pour postuler. Non,
alors c'est pas un critère, figurez-vous, c'est pas un critère de recrutement, mais les Français ont 63% d'animaux de compagnie. Donc chez Santévet, c'est une surreprésentation, comme je l'ai dit. Donc depuis les origines de l'entreprise, le bien-être et du salarié et des animaux de compagnie sont au cœur des dispositifs qu'on met en place. Et donc le congé paternité en fait partie parmi
d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça, le congé paternité ?
Alors le congé paternité, c'est
PADTE,
c'est ça, voilà. Donc en anglais, c'est le paternity leave, mais on garde notre petit jeu de mots en français puisque ça fonctionne bien. Ça s'applique à tout le groupe. Donc dans tous les pays de Santévet, les 5 pays dans lesquels on est présent aujourd'hui. Le congé paternité, ça permet de, quand on accueille un animal de compagnie dans la famille, ça chamboule un peu les choses, il y a de la logistique, il y a des rendez-vous à prendre chez le véto, il y a des vaccinations.
Comme un enfant, en fait, hein.
Ouais, un petit peu, il y a des prises d'habitude, de la litière si c'est un chat, des prises de repères dans l'appartement, et ce qu'on cherche à faire, c'est faire que cette expérience soit super sereine, tant pour l'animal que pour nos salariés. Donc en fait, c'est deux jours de congé. Pardon, allez-y.
Deux jours. Non, allez-y.
C'est deux jours de congé qui peuvent être pris par le salarié dans les 3 mois qui suivent l'accueil de l'animal à son domicile.
Vous le faites parce que c'est votre cœur de métier, c'est votre ADN, le bien-être animal aussi. Est-ce que vous, en tant que DRH, Géraldine Légal, chez Santévet, vous imagineriez qu'on puisse élargir ça dans n'importe quelle entreprise ou d'un point de vue RH, ça reste quand même compliqué?
Non, pour moi, tout ce qui est... Alors, c'est vrai que nous, il y a une totale connexion avec la raison d'être de l'entreprise, comme vous venez de le dire. Chez Santévet, depuis toujours, c'est essayer de s'assurer que la relation entre l'animal de compagnie et le propriétaire est prolongée, elle est durable, voilà, tout ça au travers de l'assurance santé et du bien-être animalier. Mais pour moi, il y a des études, même scientifiques, sur certains des bénéfices autour des animaux qui montrent qu'il y a une qualité de vie au travail. Et même physiologique, j'ai trouvé une petite enquête d'une université, d'une université américaine en Virginie
qui
montre que la relation entre l'animal de compagnie et le propriétaire, notamment dans le cadre du travail, puisque chez Santévet on a aussi du pet at work, on peut amener son chien au travail depuis plus d'une dizaine d'années déjà, et en fait ça montre que même les personnes qui regardent ou caressent l'animal sécrètent de l'ocytocine, de l'endomorphine, et donc font baisser leur stress. Il y a des avantages. Donc tout ce qui est autour de l'animal, pour moi, ça pourrait être totalement démocratisé. Ce qui est dommage, c'est que par exemple le pet at work, donc là, encore une fois, désolé pour l'anglais, donc la capacité d'amener son chien au travail, c'est moins de 7% d'employeurs en France aujourd'hui. Alors le paternité, ça s'inscrit dans cette continuité.
Parce qu'il faut aussi des infrastructures, non? J'imagine, il faut pouvoir le sortir, le chien ou le chat, faut lui mettre une litière dans l'open space, ça s'organise.
Ouais, non, mais c'est une bonne question. Donc déjà, c'est plus le chien que le chat. Le chat, c'est un peu plus compliqué à encadrer.
Surtout si on a le voisin qui amène le chien, moi j'amène le chat, ça risque de mal se passer.
Oui, alors la cohabitation n'est pas super. Le chat, c'est deux fois plus allergique que le chien, donc c'est compliqué aussi à ce niveau-là. Donc chez Santévet, c'est plutôt le chien qui est amené principalement. On a aussi vu du perroquet.
Il y a perroquet aussi. Combien il y en a dans les bureaux?
C'est à peu près un tiers de nos salariés propriétaires de chiens qui les amènent.
Alors, tous les jours?
Alors, pas tous les jours. En fait, ça, on a une charte de, du Pet at Work, en fait, hein, de mm-hmm. qui est applicable au groupe, qui a été développée par notre super équipe d'ambassadeurs et par notre CSE et nos services généraux. Et ils encadrent ça. Il faut pouvoir avoir un chien qui est sociable. Ouais. Il faut pouvoir avoir un chien qui
veut lui faire passer un test.
Non, c'est pas un test. Enfin, le test dans la réalité, en général, ça se passe super bien. Donc, on n'a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même répondre à certains critères et que, pour que tout le monde, la liberté de chacun soit préservée, y compris ceux qui potentiellement n'aiment pas les chiens.
Il n'y a jamais eu de problème.
Ben, écoutez, non.
Jusqu'à maintenant.
Franchement, non.
En 10 ans. Donc,
non, oui, ça fait plus de 10 ans, pas de problème. Après, ce qui se passe, c'est que j'imagine que ça s'organise. On a un planning aussi dans le Pet at Work. C'est-à-dire que vous dites quand vous arrivez avec votre chien, donc si vraiment quelqu'un avait une peur panique de Tosca au marketing, et un petit Jack Russell.
Ah. Alors, et donc le secrétaire général, en plus de gérer le planning des salariés, doit aussi gérer le planning des animaux de compagnie.
Ça se fait tout seul.
Ça se fait tout seul.
Super bien.
Je reviens rapidement, mais sur le congé paternité qui existe chez vous donc, depuis 2 ans.
Ouais.
En tout, vous avez cumulé 57 jours d'absence, donc il y a quand même ça vient cumuler au congé légaux, bien sûr, au RTT éventuellement. Pas de risque de se retrouver en sous-effectif à une période de l'année si
non,
tout le monde adopte en même temps.
C'est 5% de nos salariés sur une année complète, donc pour le paternité. On a aussi un congé pour le décès de l'animal de compagnie, et là c'est 3%, mais on est content que ce soit moins.
Oui.
Donc non, c'est 5%, donc ça se fait tout seul, quoi.
C'est un argument vraiment pour fidéliser les salariés ?
Oui, moi je pense, puisque quand on a fait cette enquête où on a estimé qu'on avait 72% de nos salariés qui avaient un animal de compagnie, au moins un animal de compagnie, on leur a aussi demandé si ça avait été différenciateur pour le fait de rejoindre du groupe. Mmh. Et 60% d'entre eux ont dit que oui. Ils ont rejoint le groupe parce que, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'était une petite anecdote, mais j'ai eu une candidate qui m'a dit « Je vous suis depuis longtemps, j'adorerais pouvoir venir avec mon chien au travail. » Et bon, donc ça veut dire qu'il y a quand même un effet marque employeur aussi qui est important. Ouais.
Dernière question, Géraldine Légal, DRH de Santé-Vête, mais justement... Il ne faut peut-être pas tomber dans la facilité de faire tourner toute votre politique RH autour de ça, parce qu'on se dit, on est dans l'univers de l'assurance des animaux de compagnie, on va mettre en place plein de sujets RH qui vont dans ce sens-là. À côté, quels sont les autres chantiers sur lesquels vous travaillez?
Oui, c'est une question juste. Donc pour nous, c'est en plus, c'est parce que c'est dans l'ADN, mais sinon, dans les choses qui sont vraiment appréciées, je pense chez Santé-Vet, il y a tout ce qui est flexibilité au travail. On a un accord de temps de travail à l'heure où les choses vont plutôt dans le sens inverse et on est en train de re-questionner. Nous, il y a une flexibilité, on travaille depuis le pays, on peut travailler de l'étranger, on a des mois dans nos filiales à l'étranger, on a une académie en interne, une école de formation qui est un peu unique. Donc, on a d'autres raisons qui font qu'on a quand même 85% de nos salariés qui sont heureux au travail.
Ouais.
Donc, c'est
donc
déjà pas
c'est
mal.
Plutôt bien. Il nous reste 30 secondes pour mieux savoir quel manager et quel DRH vous êtes. C'est Théo qui nous amène tout de suite la boîte du DRH dans laquelle je vous invite à piocher un papier, une phrase à compléter.
Merci Théo. Je touille.
Voilà, touille est bien.
Je touille.
Je vous laisse nous la lire.
Alors, dans ma boîte, les entretiens avec les salariés, c'est tous les... Alors, ça dépend. On va dire que c'est 2 ou 3 fois par an.
Ouais,
en revanche, oui, parce qu'en fait, on essaie d'encourager une revue des OKR, les Objectives et Key Results, donc les objectifs qu'on regarde régulièrement. Mais surtout, on encourage un dialogue permanent entre les managers et leurs salariés.
Et c'est à leur demande ou à la vôtre ?
On espère que c'est à la demande des deux.
Ouais.
Et qu'il y a
on
des
peut
échanges,
solliciter un entretien, même si on en a eu 3 dans l'année déjà.
Non, mais des entretiens, on est censé en faire aussi à la machine à café. Pour moi, c'est l'entretien formel, si vous voulez, c'est un rendez-vous particulier pour s'assurer qu'on est bien aligné, mais ça n'empêche pas de se parler toute l'année.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu.
Non,
Géraldine Légal, merci infiniment
merci
d'être venue. Avec plaisir, DRH de Santé-Vet. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on appelle notre avocat. Et on joint donc sans plus tarder Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, pour répondre à cette question d'une auditrice. Valérie, j'ai 22 ans, je travaille dans une start-up avec des entrepreneurs très fun que j'aime beaucoup, mais je suis toujours en stage et ça fait 2 ans. Est-ce normal ?
Alors, elle est drôle votre question. Non, c'est pas normal du tout. Donc j'ai d'abord moi une question en retour, évidemment, c'est êtes-vous encore étudiant ? Si vous êtes étudiant ou en formation, alors une convention de stage peut se justifier. Si vous ne l'êtes plus et que vous n'avez aucun rattachement, si ce n'est le qualificatif de stagiaire sans aucune formation connectée ou corrélative, eh bien, évidemment, ça n'est pas normal et votre situation est en réalité celle d'un salarié dont la convention de stage peut être requalifiée en contrat de travail avec toutes les conséquences de droit. Maintenant, j'entends aussi que c'est une entreprise fun et que vous y êtes heureux et que la seule problématique, c'est le statut de stagiaire, pardon, et potentiellement la rémunération. Bien, dans ce cas, il faut en discuter avec vos employeurs fun, essayer de voir dans quelle situation est cette start-up, est-ce qu'elle est toujours en levée de fonds, est-ce qu'elle a des fonds, est-ce qu'il y a d'autres salariés et est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour maintenir la relation entre vous trois, peut-être à temps partiel, pour limiter par rapport au coût d'un temps plein. En tout cas, si vous n'avez aucune formation corrélative et aucun organisme de formation ou université qui peut valider une convention de stage, alors cette convention de stage n'existe pas et ce n'est pas normal d'être en stage depuis 2 ans.
Merci beaucoup Valérie Memounayat, écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur la seule adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Être manager à 25 ans, bah ça doit pas être facile. Comment bien manager et être manager, c'est ce qui nous intéresse pendant les 10 prochaines minutes de cette émission avec nos invités que j'accueille, Julien Dreher. Bonjour Julien.
Bonjour Erwan.
Entrepreneur et auteur de Tous Managers, ça tombe bien. Et face à vous, Solaï Azbek, bienvenue. Vous êtes senior audit financier chez Mazars. Alors vous êtes manager, Sola. Combien de personnes vous encadrez ?
Alors on est dans des structures d'équipe un petit peu particulières, loin des organisations classiques. Ouais. Vous allez fonctionner en mode projet. Donc aujourd'hui, j'ai 5 à 6 missions, chacune composée de 2 3 4 4 équipes plutôt juniors. Mmh. Voilà.
Des personnes qui... Vous avez quel âge ?
Alors moi j'ai 26 ans.
26 ans.
Globalement, vous démarrez l'audit en sortie d'école. Mmh. Et puis 2-3 ans plus tard, vous allez être amené à encadrer des équipes et manager.
Juste d'un mot, Julien, là-dessus. Mais donc là, on est chez Mazars, dans un cabinet de conseil. C'est vrai que c'est typiquement les univers dans lesquels on évolue très vite. Hein. On peut vite diriger des personnes. Bah, quand on sort d'un stage, d'un apprentissage, il suffit quoi de 2, 3, 4 ans ?
Tout à fait.
Pour encadrer des personnes. C'est assez atypique.
Oui, c'est assez atypique, effectivement une constante de l'univers du service et du conseil dans lequel les carrières évoluent très vite. Et effectivement, donc c'est souvent des bons environnements pour pouvoir manager très jeune ou en tout cas prendre des responsabilités, qu'elles soient opérationnelles ou plus managériales très jeune.
Mais alors, il y a la question de la préparation. Comment est-ce que vous prenez ces fonctions-là ? Est-ce qu'on vous forme ? Est-ce que vous êtes accompagné ?
Tout à fait. Déjà, je ne suis pas un cas isolé. On fonctionne beaucoup par promotion. Vous allez avoir un séminaire de formation qui va initier vos années d'accompagnement, de management. Vous allez autant avoir un enseignement technique, d'expertise. On est dans un métier normé. Il y a des parties prenantes qui sont preneuses des informations qu'on va certifier. Et vous avez aussi les soft skills. On va vous apprendre à vous connaître, déjà. Et puis, apprendre à analyser les intervenants en face de vous.
Et ça, c'est avant d'être manager.
Oui,
d'accord.
Oui,
c'est pas une fois que vous êtes nommé qu'on va vous former.
C'est un peu la suite logique.
Ça continue au fil de l'eau.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de votre parcours dans l'entreprise.
Ouais, il faut vraiment prendre en considération, Julien, quand on est fait partie de la direction ou des ressources humaines, bien sûr, cette question-là de la formation. On ne balance pas un manager dans la gueule du loup, parce que parfois, enfin, on a beaucoup entendu d'histoires comme ça, d'échecs, et puis des personnes aussi qui managent alors qu'elles ne voulaient pas le faire.
Oui, enfin, c'est un changement assez global dans l'entreprise sur son modèle de management qui va effectivement en rendant cette mission beaucoup plus accessible, centrée sur l'opérationnel souvent et qui permet d'exprimer le leadership, mais c'est aussi en ayant toutes ces fonctions support qui permettent aussi de traiter, on va dire, la science du management, les problèmes vraiment durs comme les conflits, comme tout un tas de sujets qui sont pas forcément très simples à gérer quand on a 25 ans et qui vont être un support plus. Et c'est ça un peu le sujet pour les entreprises, cette entreprise plateforme qui va supporter, aider les managers de 25 ans pour qu'ils puissent vraiment exprimer tout leur leadership.
Est-ce que pour être un bon manager, et c'est pas comme un comédien, il faut avoir vécu des choses, il faut avoir fait l'expérience dans sa vie personnelle pour pouvoir ensuite jouer des émotions, de la même manière que quand on encadre des personnes, il faut savoir aussi gérer les émotions, les personnalités des autres, non ? Donc avoir du vécu.
Alors moi je dirais plus que déjà on peut avoir du vécu à 25 ans, c'est plus de la crédibilité que du vécu. Oui. Et je pense que à 25 ans on peut être crédible sur tout un tas de sujets, même beaucoup plus crédible que des personnes plus âgées. Voilà. Et moi-même, hein, je pense qu'il y a plein de sujets que je traiterai beaucoup moins bien que quelqu'un qui a 25 ans, tout simplement parce qu'il a le vécu de quelqu'un de 25 ans. Et c'est ça qui est pertinent. En fait.
La question de la crédibilité, vous voulez être posée ?
Alors. d'autant plus en encadrant on est dans un environnement très jeune finalement, vous allez encadrer des personnes qui ont 1 à 2 ans de moins que vous. Il s'agit de faire preuve d'une posture managériale tout en étant pas forcément que le copain qui a juste un an ou 2 ans de plus, finalement veiller à être en accord avec les mesures d'excellence. Voilà, on a un devoir d'excellence envers nos clients, envers nous-mêmes, envers le cabinet, et accompagner quand même dans la bienveillance sans tomber dans la complaisance.
Après, j'imagine que vous n'êtes pas seul aussi. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un soutien, bon, vous avez forcément quelqu'un au-dessus de vous qui va vous aider.
Tout à fait. Selon les structures d'équipe, en général, vous avez quand même des managers un peu plus aînés, un peu plus seniors, et puis vous avez les RH qui sont quand même le fil conducteur dans notre organisation, un peu management de projet. Et qui nous aide dans notre quotidien.
On parle beaucoup du problème de l'imposteur dans les entreprises, notamment quand on est une femme aussi. Est-ce que ce problème-là, vous l'avez vécu ou vous connaissez d'autres personnes qui l'ont vécu? Julien aussi, peut-être vous avez des expériences comme ça, des histoires à nous raconter. On est dans une position de manager quand on est jeune, 25-26 ans. Est-ce que vraiment on est légitime? C'est des questions que vous êtes posées?
Alors, pas forcément en tant que femme, mais plus en tant que jeune collaborateur, comme vous le disiez. Évidemment, on se remet en question, mais finalement, la vie est baignée d'échanges avec des pairs. Vous avez également chez nous le feedback 360. Donc, c'est aussi l'opportunité d'avoir des feedbacks sur votre style de management.
Ah oui.
Je pense que le style
anonyme
de management,
ou pas
anonyme. Tout
anonyme.
À fait.
Ouais, donc,
tout
on
à
peut
fait.
Dire vraiment très clairement ce qu'on pense.
Après, on pousse quand même à échanger avec la personne avant de mettre ça par écrit, bien sûr. Voilà, que ce soit un échange sur ce qui va pas dans les deux sens. Ouais. Je pense qu'on est deux à se manager finalement dans une relation de management.
Ouais. Julien, il faut que la personne qui est au-dessus du manager, le légitime aussi, lui dise tu as toutes les droits et tu as la légitimité d'être à ce poste-là quand c'est un jeune manager.
Ouais, au contraire, je pense que faciliter le travail d'un jeune manager, c'est lui laisser beaucoup d'autonomie. Il y a rien de pire que pour un jeune manager d'être entre, parce que c'est là où c'est le plus complexe, entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire d'avoir un manager ultra contrôlant et des managers derrière qui attendent de tout le manager. Donc au contraire, pour le N+1, c'est d'être disponible, d'avoir une vision très claire, des attentes très claires, un cadre très clair de ce à quoi il attend en tant que manager, mais surtout pas dans le micromanagement ou dans le contrôle ou trop présent.
Alors, vous qui nous écoutez, est-ce que ça vous poserait problème? Est-ce que ça vous pose problème d'être encadré par un jeune de 25 ans qui est peut-être plus jeune que vous? Astrid Olivier est allée à votre rencontre pour vous poser la question.
Oui, au début, c'est difficile parce que les personnes un peu plus âgées qui ont un peu plus d'expérience ne comprennent pas forcément pourquoi un jeune les dirige. Le nombre d'années d'expérience ne joue pas forcément. C'est aussi les compétences, le niveau et puis c'est aussi savoir s'adapter.
Donc voilà, comme j'avais le grade d'élève officier, du coup ça m'était arrivé de gérer entre guillemets des sous-officiers et des militaires du rang. Savoir que ces gens sont meilleurs que vous sur tout ce qu'ils savent faire, donc faut savoir être humble.
Il faut de la légitimité, et pour avoir de la légitimité, je dirais qu'il faut déjà de la connaissance sur le métier. Et puis après, c'est l'état d'esprit, le charisme.
Je pense juste que c'est un tempérament aussi, enfin, faut savoir mettre son ego de côté. Et en fait, genre, si on estime que la personne est plus compétente, l'âge, ça veut rien dire pour moi. Enfin, c'est plutôt dans les actes et dans la manière de faire qui sont les plus importants.
Julien Dreher, moi, je retiens trois mots: légitimité, compétence, tempérament. Hein. C'est ça, en fait, qui compte aujourd'hui. C'est pas forcément nécessairement l'âge.
Oui, et puis même à l'inverse.
Dans les témoignages qu'on a recueillis.
À l'inverse, effectivement, le contre-exemple, c'est qu'on peut être quelqu'un d'expérimenté et ne pas avoir ces trois vertus et pour le coup être pas très bon manager ou être mal perçu par ses managers. Donc, effectivement, c'est ça en fait l'essentiel.
Vous, Sola Yazbek, ça vous rassure un peu là ce qu'on vient d'entendre ou pas?
Bien sûr. Je pense qu'on a beaucoup tendance à opposer les jeunes générations de leurs aînés. Moi, je pense que c'est une question de tout âge et n'importe quel âge, on peut se demander qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour être un bon manager? Qu'est-ce qu'un bon manager pour moi? Et puis, surtout que cette vision évolue avec le temps et l'expérience.
Ouais. Et les mentalités aussi ont changé. C'est-à-dire qu'être managé par quelqu'un qui a 25 ans, il y a 10-15 ans, c'était peut-être plus difficile qu'aujourd'hui, non?
Mais complètement, on est dans un changement de culture progressif autour de ça, tout simplement parce que le marché l'exige, qu'on a besoin de beaucoup plus de diversité, on a besoin dans les offres et donc derrière dans la prise de décision interne, donc forcément dans le management. Et donc on est sur un changement continu, mais assez sérieux de ce type de culture de travail. On a parlé de transparence, on a parlé d'autonomie, mais aussi évidemment derrière de qui manage ou qui prend les décisions.
Après, vous, cela, vous ne managez pas des personnes qui sont plus âgées que vous ?
Non, pas spécialement.
Pour l'instant ?
Pour l'instant.
Peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Est-ce que c'est un problème, en tout cas une question supplémentaire qu'on est amené à se poser de, est-ce qu'on va avoir la même attitude avec une personne qui a plus d'expérience, qui est plus ancienneté dans l'entreprise ?
Je pense qu'effectivement, votre légitimité est d'autant plus challengée. Mmh. Évidemment, vous devrait plus peut-être travailler sur votre expertise. Mmh. Voilà. Donc oui, évidemment, ce serait un autre challenge.
On avait un petit peu plus tôt dans cette émission la DRH d'Alan, entreprise d'assurance dans laquelle il n'y a plus de manager. Le livre que vous avez écrit, Julien Dreyer, c'est Tous Managers, mais le sous-titre, c'est Renoncer à la subordination pour libérer la coopération de l'entreprise. C'est-à-dire que dans un idéal, faudrait qu'il n'y ait plus de manager, en fait, non ?
Après, est-ce qu'il n'y a plus de manager ? Ça dépend ce qu'on entend par manager. Moi, j'entends le manager au sens de la capacité de favoriser le travail collectif. Et pour moi, ça, c'est la responsabilité de tout le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'entends le Tous Manager avec l'enjeu de déconcentrer et de découper les charges managériales pour la mettre au bon niveau, par exemple au niveau de cela sur la dimension management opérationnel, mais sans forcément en plus gérer, j'en sais rien, les congés, les augmentations, les promotions, les conflits qui sont pour le coup plus compliqués à gérer à 25 ans, surtout quand c'est des publics et des managers plus vieux.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Solaï Yazbek, senior audit financier chez Mazars, et Julien Dreyer, entrepreneur et auteur de Tous Managers, qui était avec nous dans ce meeting. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est la carte blanche. Avec Yannick Mercieris, le directeur de Swile, qui nous parle des nouveautés de notre fiche de paie.
Votre fiche de paie va changer. Oui. Encore une fois, et restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous la montrer. Un tiers des salariés n'arrive pas à comprendre sa fiche de paye. Même moi qui bosse dessus, j'avoue que c'est parfois un peu flou. Alors, selon Le Monde, le gouvernement a décidé de changer tout ça et de proposer une loi de simplification. Ce qui fait que la fiche de paye qu'on connaît, de 55 lignes, va être réduite à 30 lignes. Oui, je sais, c'est encore beaucoup, mais on peut pas juste avoir le nom et le chèque. C'est le moment de vous montrer à quoi elle va ressembler. L'objectif, c'est d'aller sur les choses essentielles, ce qui intéresse vraiment les gens. Bon, ici... Le nom, le prénom, ça change pas, c'est hyper important. Ensuite, il y a la REM, salaire brut, les congés, les heures sup, etc. Ça bouge pas. Attention, là, ça change. Les cotisations salariales. En gros, chômage, santé, sécurité sociale, etc. Une seule ligne, qui s'appelle Orio, prélèvements sociaux. Puis, les revenus autres, c'est-à-dire les notes de frais, les titres resto ou encore les remboursements de transport. Tout ça, ça bouge pas et ça nous intéresse vraiment. Juste avant la fin, il y a le prélèvement à la source, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu avec votre taux et ce qu'on vous enlève. Et enfin, le Graal, le chèque. En gros, toutes ces lignes de la fiche de paye, elles sont importantes, mais on n'en a pas besoin tout le temps. Donc, avec cette simplification, vous aurez juste ce dont vous avez besoin. Et si vous voulez d'autres infos, il suffira juste d'aller demander à votre employeur. Et là, vous allez me dire, ok, super, mais elle est pour quand cette nouvelle fiche de paye ? Déjà, il faut que la loi soit votée. Et si c'est le cas, les employeurs auront jusqu'à 2027 pour se mettre en ordre. Alors, vous préférez cette version-là, là, ou l'ancienne ?
Happy Boulot, le lab.
Avec Camille Bourg, que l'on retrouve. Bonjour Camille.
Bonjour Erwan.
Et aujourd'hui, une entreprise qui développe des exosquelettes pour lutter contre les lombalgies.
On reçoit la cofondatrice de Japé Médical. Bonjour Amélie Blondeau.
Bonjour, bienvenue.
Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause d'indemnisation pour maladies professionnelles en France, en hausse de 60% depuis 2003 d'après l'assurance maladie. C'est la raison pour laquelle vous avez développé ces exosquelettes pour protéger le dos, les bras, la nuque. Comment fonctionne-t-il concrètement ?
Alors effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui c'est 800 millions pour la sécurité sociale et c'est la première cause d'arrêt de travail pour les sociétés. Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, JAP a développé l'exosquelette capable de protéger le dos à la fois en préventif et en curatif. Je vous explique peut-être comment ça fonctionne. Hein. On a deux actions principales. Donc, comme je disais avant l'apparition, donc ça va être sur la limite de l'impact sur la colonne vertébrale. Donc, on va limiter, par exemple, pour les activités répétitives, les mauvaises postures, les ports de charge. Donc, on a à peu près une diminution de 85% dans les temps d'activité à risque. Mm-hmm. Donc, déjà, ça pour limiter les activités à risque et donc améliorer la pénibilité au travail.
C'est une conception 100% française. C'est un secteur quand même qui est de plus en plus concurrentiel. On entend beaucoup sur BFM Business parler de sociétés qui font des exosquelettes. Comment est-ce qu'on fait pour se défendre sur ce marché ?
Alors effectivement, nous, on a trois piliers forts. Le premier, c'est les standards médicaux. On est quasiment les seuls à être dispositif médical classe 2A.
Oui, parce que j'imagine que la réglementation est quand même très stricte.
Oui, et en même temps, il y en a très peu. Donc aujourd'hui, on se différencie aussi avec cette force-là et avec toutes les preuves cliniques qu'il y a derrière. Mm-hmm. Le deuxième, c'est qu'on est une solution robotique intégrée au textile. Donc c'est aussi notre propre savoir-faire qu'on tend à industrialiser.
Donc c'est breveté ?
Oui, exactement. Ouais. 5 brevets.
Et aussi, aujourd'hui, on a notre propre protocole d'intégration parce qu'on ne fait pas que commercialiser, on produit, on conçoit et on intègre. Donc, on a notre propre protocole.
À qui est-ce qu'il s'adresse concrètement, du coup, ces exosquelettes ?
Alors, les exosquelettes, c'est surtout, soit, par exemple, pour un collaborateur qui veut maintenir son poste, reconnaissance travailleur handicapé, par exemple, ou alors un travailleur qui a des activités sollicitantes. Ça peut être différentes typologies d'entreprises. On parle de grandes entreprises, plus petites. Aujourd'hui, c'est Erta.
Vous travaillez déjà avec eux ?
Oui.
C'est-à-dire, alors... vous équipez les salariés, les ouvriers ?
Exactement. Enfin,
ceux qui travaillent, je sais pas comment, oui.
Les collaborateurs.
Les collaborateurs, oui, mais donc ils sont dans les usines.
Oui.
Ouais.
On a aussi, par exemple, des maréchaux-ferrants, des boulangers, des assistantes pour les soins. Donc, on a vraiment différentes typologies.
Tous les métiers physiques où on va devoir aussi se baisser, solliciter le dos. Un exosquelette, ça coûte 7 700 €, c'est ça ?
Oui.
Derrière, il y a quoi ? Il y a du service après-vente, si ça ne fonctionne pas, etc. Enfin, on peut communiquer facilement avec Japet ?
Alors oui, complètement. Ouais. On est complètement hyper actif de ce côté-là. Mais surtout, il faut comprendre que derrière les 7 700 €, on a une action de compréhension du besoin. Donc on accompagne les entreprises. On va détecter aussi l'intégrateur qui va venir accompagner et être porteur de l'innovation au sein de l'entreprise. Et puis après, on va avoir un protocole de suivi. Donc on va appeler nos clients, on va les suivre, on va les accompagner jusqu'à la fin.
J'ai une dernière question. Combien est la durée de vie du coup de ces exosquelettes ? Combien de temps les salariés peuvent les porter ? Est-ce que vous savez un petit peu dire si ça peut être utilisé pendant 2 ans en continu tous les jours ? Est-ce que ça peut être utilisé 10 ans ? Est-ce que vous avez des possibilités de nous en dire plus ?
Oui, alors on a une garantie de vie de produit de 3 ans. Après, tout dépend de l'utilisation par jour. On peut dire une demi-heure, une heure, 2 heures. Sachant que c'est un produit qui a été conçu pour être partagé. Donc, il est aussi conçu pour durer et être partagé auprès des collaborateurs.
L'export, l'international, vous en êtes où ?
Oui, alors aujourd'hui, on est focus sur l'Europe. On tend à être leader en Europe.
Ouais.
Et voilà, 2025, plutôt une plus grande ouverture internationale.
Et vous lancez une campagne de financement participatif. D'ailleurs, j'imagine que c'est aussi pour pouvoir vous internationaliser.
Exactement. Ouais. On a plusieurs objectifs. Internaliser la prod, donc notre savoir-faire, et aussi ouvrir l'Europe. L'objectif pour nous, c'est d'ouvrir cette fois-ci ce crowdfunding aux particuliers. Parce qu'on pense que chacun peut être acteur aussi de la modification, en tout cas d'intégrer les robotiques médicales au sein du quotidien.
Et vous cherchez à lever combien ?
800 000 €.
800 000 euros. Eh ben, bonne chance à vous. Et à Japet, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Amélie Blondeau, cofondatrice de Japet Médical, avec nous dans Happy Boulot. Merci Camille Bourg.
Merci Arwen.
C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo Elban qui était en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.